Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, depuis les studios du Boulevard. Aujourd'hui, j'ai envie, à cette saison de fin septembre, début octobre, de vous parler d'un sujet tout à fait en lien avec la saison où nous sommes, à savoir l'équinoxe d'automne et sa mythologie, ses rites et ses traditions. Alors, l'équinoxe d'automne, certes, elle est fixée au point de vue calendaire vers le 21 septembre, qui est une date qui a beaucoup marqué l'histoire de l'humanité. Rappelez-vous que, pour ne pas trop en dire, c'est l'époque de sa vie où Mahomet a quitté la Mecque pour Yathrib, la future Médine, entre le 20 et le 24 septembre 622. C'est le moment où, dans la France, la Révolution a été abolie la royauté et proclamée la République. Et c'est aussi, assez curieusement, le moment où Nostradamus voyait en 1792 la fin de la persécution de l'Église et un temps que l'on croira être celui d'un changement de siècle, le latin saeculum, qui désigne une ère astronomique. Alors, il est assez curieux de voir que cet équinoxe d'automne, qui marque également le calendrier juif, le calendrier israélite, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'est fixée la date de la fête de Rosh Hashanah, la tête Rosh Hashanah de l'année, et 10 jours après, Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour après 10 jours de jeûne et de deuil. Et cette fête juive de Yom Kippour et de Rosh Hashanah est marquée par le son du shofar que entonne un rabbin, le shofar étant une corne de bélier évidée, image qui a été reprise par Saint Jean dans l'Apocalypse, avec nous parlant de Saint Michel entonnant la trompette du jugement dernier. Alors nous sommes bien placés dans le Lot pour en parler quand on songe aux sculptures du porche nord et du tympan du porche nord de la cathédrale de Cahors, qui sont pleines de signes, laissant penser que les concepteurs de ces sculptures tentaient de prévoir la date du jugement dernier. Ce motif qui obsède la pensée humaine, c'est même l'objet d'ouvrages savants de mythologie, mythologie de la fin des temps, est aussi aux origines même des grands changements religieux. On sait que Mahomet, né en 570, a connu une Arabie qui était la proie de sécheresses dévastatrices, de chaleurs torrides, et qui était vécue par les populations, du fait de la disparition des troupeaux et de tribus entières, comme présageant la fin du monde, la fin des temps. D'où, dans la vision du monde qui était celle de Mahomet, l'angoisse de fin des temps, l'angoisse de fin du monde, que l'on retrouvera au moment de la réforme protestante dans les motifs phobiques qui ont animé la pensée de Martin Luther, par exemple, qui croyait lui aussi la fin des temps sur le point d'arriver. Alors, cet équinoxe d'automne, dans le calendrier de l'Europe chrétienne, est marqué par 3 fêtes, essentiellement, la Saint-Matthieu le 21 septembre, la Saint-Denis, dont je vous reparlerai le 10 octobre, et surtout la Saint-Michel d'automne, le 29 septembre. Alors, la Saint-Michel d'automne est le véritable équinoxe d'automne liturgique de l'Église catholique. Pourquoi dit-on d'abord Saint-Michel d'automne et Saint-Michel de printemps? Alors, la Saint-Michel de printemps, c'est le 8 mai, la Saint-Michel d'automne, le 29 septembre. C'est dû à ce que l'Église fête ces 2 jours-là. On est alors à l'entrée dans la saison chaude, le 8 mai, et à sa fin, le 29 septembre. Rappelez-vous les proverbes qui sont connus en pays d'Oï. À la Saint-Michel, 29 septembre, la chaleur remonte au ciel. Si l'hirondelle voit la Saint-Michel, l'hiver ne viendra qu'après la Noël. Dans la France traditionnelle, dirons-nous, les baux de métayage étaient à échéance pour la Saint-Michel. Dans nos régions, lorsque les métayers changeaient d'exploitation, au bout de plusieurs années de métayage, quelquefois les contrats duraient 9 ans, on disait qu'ils faisaient la Michelado, fan la Michelado, ils font la Saint-Michel, lorsqu'ils changeaient d'exploitation. Cette période de septembre était aussi celle du versement de redevances seigneuriales. Le 8 septembre, nativité de la Sainte Vierge, versement des redevances en céréales. Et à Montcuq notamment, de la Saint-Michel 29 septembre jusqu'à la Saint-Martin 11 novembre, courait une période de plus d'un mois correspondant aux vendanges, qui culminait vers la Saint-Denis, 10 octobre. Une période pendant laquelle on pouvait entrer librement par les portes fortifiées de Montcuq sans payer aucune taxe, je parle du Moyen-Âge, de l'Ancien Régime, sans payer aucune taxe et ensuite vendre librement son vin, far taberno, comme dit la charte des coutumes de Montcuq, Les habitants de Montcuq portent une taverne de l'Urbi. Une fois qu'ils l'ont rentré, passent la Saint-Michel et la Saint-Marty. Les gens de Montcuq peuvent faire commerce de leur vin. Alors on est donc là à une période qui est celle des vendanges, des récoltes. Et ça correspond à la vision qu'on avait de l'automne dans le monde romain. L'automne était la saison de récolte. C'était la saison de l'abondance retrouvée et engrangée. Dans nos régions, le 29 septembre, fête de Saint-Michel, commémore l'apparition de l'archange en 709 de notre ère dans ce qui va devenir le mont Saint-Michel, le mont tombe de l'époque, le Dunum Beleni, le mont sacré de Belenos, l'Apollon gaulois, le soleil. Alors que le 8 mai, l'Église fête une manifestation de Saint-Michel, de Saint-Michel-Archange, en Italie, dans les Pouilles, sur la mer Adriatique, au mont Gargan, il monte Gargano. Et ce qui est intéressant, dans les récits qui tournent autour de la légende de fondation du Mont Saint-Michel et du Mont Gargan, qui sont tous les deux des lieux de pèlerinage à l'archange, il faut savoir que dans ces légendes, dans ces mythes, dans ces récits, réunis dans la légende dorée par Jacques de Voragine, ancien inquisiteur général en Lombardie et qui a fini sa carrière archevêque de Gênes en 1293, et il écrit sa légende dorée entre 1250 et 1274, nous le savons par des détails secondaires. Et Jacques de Voragine montre l'association très étroite qui est faite en Europe entre les hauteurs dédiées à l'archange Saint-Michel et un ancien maître des lieux en Italie du nom de Gargano. En baie d'Avranches, je parle du Mont Saint-Michel, un paysan de la région qui se trouvait être le seul capable de soulever sans peine des mégalithes. Un autre motif apparaît, c'est celui du taureau qui, dans la baie d'Avranches comme en Italie, intervient. Alors, dans la baie d'Avranches, pour désigner le lieu où se trouvent les deux menhirs que nul ne peut bouger, sauf un paysan du lieu qui les soulève sans difficulté. En Italie, ce taureau est à la tête d'immenses troupeaux. C'est là une réminiscence des vaches sacrées d'Apollon Hélios chez Homère. Et ce taureau et ses troupeaux qui appartiennent à un certain seigneur Gargano, en fait c'est l'ancien maître divin des lieux. Ce taureau s'égare et dans la recherche que l'on fait de lui, on le retrouve devant une grotte au sommet du mont Gargan, grotte où se trouve une source qui naît du rocher, tout comme en baie d'Avranches, une source naîtra du rocher. Alors, les points communs, c'est que l'on retrouve dans les deux endroits les marques laissées par l'archange, imprimées dans le roc, ses pieds, ce qui est tout à fait une bizarrerie au point de vue de l'angélologie, la doctrine sur les anges, ses pieds donc au mont Gargan et au mont Saint-Michel, il aurait imprimé son doigt dans le crâne de l'évêque d'Avranches, Saint-Aubert. Selon certains mythologues, Delphes, le mont Gargan et le mont Saint-Michel seraient situés en trois points disposés sur une même ligne droite allant du sud-est au nord-ouest. Il faut savoir qu'après leur sacre à Reims, après leur veillée à l'oratoire de Marcoulf, c'est-à-dire le cheval-loup, Marc c'est le cheval et Ulf c'est le loup, à l'oratoire de Saint-Marcoulf à Corbeny, les rois de France, avant d'entrer glorieusement dans Paris, ils se devaient d'aller d'abord en pèlerinage de vœux de protection à Notre-Dame de Chartres, l'ancien lieu du concile des ruines des Gaules, puis au Mont Saint-Michel, vers l'Occident du monde. On est donc là, si vous voulez, en pleine mythologie chrétienne médiévale, et c'est plein d'échos dans nos régions, si on songe que nous avons avec Villesèque un lieu qui est sous la domination, la protection de Saint-Michel. Alors, Saint-Michel reprend, semble-t-il, les compétences, la figure, l'aura qui était celle, on le sait par des études de toponymie, de grand Dieu, maître des hauteurs, hauteur de l'espace, hauteur du ciel, hauteur du temps. Pensez au nom de lieu, un village de Vendée, ou du Poitou, disons, qui est Saint-Michel, Mont-Mercure. Depuis Jules César, le Mercure gaulois, en fait, il s'agit d'une divinité gauloise bien connue, qui est Lug Belos, c'est-à-dire Lug le lumineux, et Belos le brillant, le puissant. Et c'est assez intéressant dans nos régions, un temple majeur dans la Gaule ancienne, au pays des Arvernes, au sommet du Puy de Dôme, le mont Dumias, il y avait là un temple de Belos Lug, sous son nom latin de Mercure. Au fond, si le nom est celui d'un dieu secondaire latin chargé des chemins et des voies de communication et du commerce, en fait, les fonctions étaient celles du Jupiter latin ou du Zeus grec. Donc, on a avec Saint-Michel un exemple type de ce que Pierre Saint-Yves, alias Émile Nourrit, avait appelé dans un de ses ouvrages majeurs les saints successeurs des dieux. La Saint-Michel d'automne au 29 septembre illustrerait donc ce phénomène qui est bien connu et qui est prégnant particulièrement dans nos régions à Villesèque. Alors là, il faut un peu avoir en mémoire la toponymie des lieux et un autre monument, enfin, un artefact particulièrement prégnant à Villesèque, à savoir le rétable de l'église Saint-Michel. Alors, l'église de Villesèque est placée sous le vocable de Saint-Michel, au 29 septembre, donc commémoration de son apparition dans ce qui va devenir le mont Saint-Michel, dans la baie d'Avranches. Et non pas au 8 mai, commémoration de son apparition au mont Gargan. Je vous dis, mais de toute façon, c'est pareil, que ce soit au mont Saint-Michel de Normandie, puisque le Couesnon, en sa folie, a mis le mont en Normandie. La Céune et la Célune, qui sont deux petits fleuves côtiers, sont en Bretagne. Le Couesnon fait la séparation entre la Bretagne et la Normandie. Alors que l'on soit dans la baie d'Avranches ou dans les Pouilles d'Italie, sur la mer Adriatique, au mont Gargan, on retrouve les mêmes motifs clés. La hauteur, qui est une hauteur qui, en quelque sorte, est imprégnée de vertu, de maîtrise des éléments atmosphériques, tempêtes et ouragans. Le mont Saint-Michel est né d'un raz-de-marée qui a isolé le mont du continent. Le mont Gargan d'Italie est un lieu, un véritable mont Sinaï, enveloppé de brumes, de nuées, d'orages et d'éclairs. Un mont à tête rocheuse, au sommet duquel il y a une grotte, grotte découverte par un taureau. Taureau qui chaque fois met en jeu un maître des lieux qui s'appelle Gargan en Italie, qui est un paysan local en baie d'Avranches, lequel paysan local soulève à lui tout seul deux mégalithes. Il n'est pas autre chose que le fameux Gargan ou Gargantua du folklore de la France ancienne, disons, qui est un géant à la force prodigieuse et qui est un organisateur du paysage. C'est lui qui, comme Yu le Grand en Chine, creuse les vallées et taille les montagnes. Il ouvre les chemins, il fait couler les rivières et il marque le paysage de différents éléments impressionnants. Alors, c'est la trace de son pied, c'est un mont qui apparaît comme étant, il faut le dire tel que... l'étron de Gargantua. Gargantua, ayant besoin de se soulager des intestins, fait ses besoins et il en reste une hauteur. Vous avez à Saint-Béat, coude de la Garonne. Le coude de la Garonne est situé entre deux massifs. À l'est, le massif de la Cise, et à l'ouest, le Maille de Cric. Et on dit que Gargantua a pris appui d'un de ses pieds, mettons le pied droit, sur le massif de la Cise pour enjamber la Garonne et poser son pied opposé sur le Maille de Cric. Or, sachez-le, l'endroit où il a posé son pied sur le massif de la Cise s'appelle Montcuq. Et il va poser son pied opposé sur le Maille de Cric. Alors Gargantua, il apparaît également sous différents noms, Saint-Martin, Roland, Saint-Pierre et autres. C'est lui que l'on retrouve dans la baie d'Avranches, sur la figure de ce paysan soulevant deux mégalithes, qui est l'équivalent du Dominus, du seigneur Gargantus ou Garganto, des Pouilles d'Italie, maître d'un troupeau de bovins dont le taureau qui en est le chef, si vous voulez, s'égare et indique à son maître une grotte où il y a là un rocher avec une source et cette grotte est marquée par l'empreinte du pied de ce qu'on va interpréter comme étant en termes chrétiens l'archange Saint-Michel. Au mont Saint-Michel de Normandie, Saint-Michel, pour convaincre l'évêque d'Avranches de lui bâtir une basilique au sommet du fameux mont qui était jusque-là une colline sacrée de Luc Bellos, imprime son doigt dans le crâne de Saint-Aubert. Et encore de nos jours, à Avranches, on a conservé le crâne de Saint-Aubert et il est marqué d'un trou au sommet du crâne. Et on présentait cela comme la marque du doigt de l'archange. J'aime vous dire qu'en bonne angélologie orthodoxe catholique, les anges n'ont ni pieds ni mains. Ils n'ont pas plus qu'ils n'ont des ailes. C'était ce que je voulais vous dire pour en revenir au sujet principal. Après une petite pause musicale, nous allons attaquer le sujet Saint-Michel de Villesèque. Bon, alors, définissons quand même un peu ce qu'est l'équinoxe. Bon, c'est la période de l'année où les nuits sont égales aux jours. C'est la période de l'année, à l'automne, où les nuits deviennent plus longues que les jours. Et c'est la fête de Saint-Matthieu dans le calendrier liturgique catholique. C'est surtout dans les traditions reportées légendairement et liturgiquement et folkloriquement à la Saint-Michel d'automne, le 29 septembre, qui est en lien avec donc, l'apparition de l'archange au mont Saint-Michel de Normandie-Bretagne, de la baie d'Avranches, disons de Normandie. Et c'est lui qui est le saint patron dans nos régions de beaucoup de hauteurs. Je vous disais qu'il est un saint, un archange, qui patronne des lieux élevés, des hauteurs marquantes dans l'espace, des hauteurs isolées. Et très souvent, on s'est aperçu par des recherches d'archéologie et d'histoire que ces hauteurs avaient été d'abord lieux de culte d'un grand dieu gaulois de toutes les hauteurs de l'espace, du temps et du ciel, Loug Belos. Loug, ça veut dire le lumineux, c'est la même racine que le grec Leukos, le blanc lumineux, et Belos, ça veut dire le puissant, le brillant, etc. etc. Donc, ce dieu du sommet du ciel est celui auquel a succédé Saint-Michel, archange, dans l'organisation du paysage et de l'organisation du calendrier par l'Église catholique. Et c'est en christianisant certains lieux jusque-là marqués par des réminiscences de rites et de cultes païens que l'Église a en quelque sorte organisé le territoire. Alors ici, nous avons dans le Quercy-Blanc un cas particulier. On pourrait penser au Mont-Saint-Michel-d'Aiguille, au Puy-en-Velay, le point d'origine de la fameuse Via Podiensis sur le chemin de Compostelle. Mais ici, nous avons un cas beaucoup plus facile à étudier, c'est celui de Villesèque avec son église sous le vocable de Saint-Michel et son fameux rétable sculpté. Alors, Villesèque est un endroit, une hauteur qui a été dédiée primitivement, semble-t-il, à Saint-Jean-Baptiste, fêté le 24 juin, solstice d'été. Le solstice d'été étant vécu comme une espèce de date pivot, une date axiale et sommitale de l'année solaire. C'est en quelque sorte un axe du monde. Pensez à Mont Lauzun, qui par son nom même est un mont sacré de Loug. Ce n'est pas Saint-Michel qui a succédé à Loug, mais c'est Saint-Jean-Baptiste, 24 juin, et Saint-Pierre, 29 juin. Or, il s'est trouvé que dans mes recherches, dans les registres des anciens notaires de Montcuq, déposés aux archives départementales, je suis tombé sur des actes notariés, notamment l'un que je me souviens très bien, de 1530, donc lorsqu'encore on écrivait en latin ou en occitan, l'édit de Villers-Cotterêts n'était pas intervenu pour imposer le français. Les notaires de Montcuq, lorsqu'ils écrivent, en occitan médiéval en voie de mutation vers l'occitan moderne, pour écrire le nom de Villesèque en occitan, en bon occitan, ce serait Villa Seca. Bon, on prononce de nos jours Biloseco. Or, mes notaires ont une graphie bizarre qui devrait se prononcer Bilo Seiktso. C'est-à-dire qu'ils écrivent Bilo, B-I-2-L-E-O, S-E-I-2-C-H-O. Et il faut prononcer Seiktso. Alors, en bonne onomastique, linguistique si vous voulez, un terme de la sorte, Seiktso, ne peut provenir, résulter que de l'évolution d'une forme antérieure latinisée, mais je pense d'origine gauloise, c'est du gallo-romain local, de type Segedios. Je vous épargne la démonstration, elle est simple. Segedios qui est formé sur le, non pas le radical, mais sur un mot bien connu, Segos, victoire, force. Et quant à bilo, bilos, bile, ça désigne un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Un arbre isolé et sacré. Un arbre qui est considéré comme un arbre axial, comme un pivot du monde. Ça ferait donc de Villesèque, encore dans la mémoire conservée par les notaires, ces notaires qui, comme me disait une personne que j'ai rencontrée aux archives, sont les mémoires de la France, encore au XVIe siècle, à Montcuq, les notaires avaient conservé l'idée que Biloseco avait été d'abord un endroit appelé Biloseixo, un bile segedios, ou un bilos segedios, un arbre isolé, sacré, que l'on appelle bilos, de segos, la victoire. Villesèque aurait été donc un lieu de l'arbre axial du monde, de l'arbre pivot du monde. Or, il se trouve que dans l'église de Villesèque, il y a un superbe rétable en bois sculpté, en noyer, du XVIIe siècle, règne de Louis XIV, je pense postérieur, en fait, non, la réalisation est postérieure à la fin de l'épiscopat d'Alain de Solmignac vers 1660. Et ces sculptures du rétable portent la marque de l'influence, à mon avis, c'est mon opinion, mon interprétation personnelle. Je n'ai pas fait venir de spécialistes de la chose sur les lieux qui pourraient me donner leur opinion. Ce rétable porte la marque d'influence de sociétés secrètes, initiatiques, ésotériques et probablement caducienne, dont l'existence m'a été confirmée par une doctorante en histoire qui faisait sa thèse sur la noblesse du Quercy sous Louis XIV et qui, elle-même, dans ses recherches, avait remarqué qu'il y avait des choses bizarres à Cahors sous Louis XIV. Alors, ce rétable de Villesèque, il faut l'avoir sous les yeux. Il est bourré de motifs qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Tout est allusion à des systèmes de pensée gnostiques, c'est-à-dire d'accession à une connaissance supérieure interdite aux communs des mortels et réservée à des initiés. Alors ce rétable est sommé d'un Saint-Michel, en prince des hauteurs célestes et de l'espace, en prince du pays, en prince des Gaules, et il vainque, c'est-à-dire il triomphe de sa lance, Satan, figuré en diable cornu, noir sur fond rouge sombre. Quand on sait que par des études de toponymie, Saint-Michel est le successeur de Loug, le grand dieu celte des hauteurs, qui est aussi un dieu au long bras, c'est-à-dire puissant. Rappelez-vous l'expression, encore en français, il a le bras long, donc il a de l'influence. C'est un dieu celte au long bras, à la lance, et cette lance de Loug est vue comme un axe et un pivot du monde et du temps. Cette lance, c'est une lance de frêne. Le frêne, c'est frais, en occitan. Rappelez-vous ce que je vous disais sur l'importance de la toponymie basée sur le nom du frêne, la Barguelonne, ruisseau des frênes. À Montcuq, un Camí del Fraise, qui longe un lac alimenté par une source qui porte le nom de Fount del Zuzius, fontaine des Juifs, chemin qui va vers Montlozun. Montlozun qui est en bonne, d'après la forme relatinisée au XVe siècle, Monte Lago Dunum, ça en fait un mont sacré de Loug. On serait donc là dans un pays, si vous voulez, ou interviendrait de façon subreptice par tout un tas de petits détails à peine perceptibles dans la toponymie, l'influence d'une divinité des hauteurs du ciel et du centre du monde, et auquel aurait succédé à Villesèque, dans l'église, Saint-Michel-Archange, armé de la lance et vainquant le démon, vainquant le Satan de la Bible. Villesèque, dont je vous le dis, le nom, d'après, c'est une étymologie hypothétique, Bilo Segedios, qui serait l'arbre axial, l'arbre pivot du monde, l'arbre de la victoire, puisque Segedios, ça veut dire de la victoire. Il faut savoir que ce rétable de Villesèque, il faut le lire, d'abord c'est un rétable qui a été construit, structuré, en ligne hélicoïdale ascendante, en convolvulation, si vous voulez, comme le serpent autour de l'arbre de la tentation à Rouillac. Les lignes vont en tournant, en spirale, en hélice. Une structure hélicoïdale ascendante. Et il faut le lire en ligne hélicoïdale ascendante, mais des côtés vers le centre et du bas vers le haut. Bon, il est plein de signes et de motifs clés. Un cerf ailé, un taureau ailé, un aigle qui grimpe sur les rameaux d'une vigne, où montent ces animaux qui sont au fond des symboles. Il y a des pommes de pin, symbole d'immortalité, de jeunesse toujours revivissante, des grenades qui sont les fruits des trépassés, un pélican christique. Au fond, ce que exprime, entre autres motifs, entre autres interprétations possibles, ce rétable de Villesèque, c'est la recherche d'une jeunesse éternelle et cycliquement renouvelée, d'une immortalité et d'une jeunesse toujours revivissante. On aurait peut-être un écho avec le lieu de la Marmoule, à côté de Villesèque, la Marmoule, en bon latin. J'en parlais une fois avec une habitante des lieux qui connaît bien le latin. Elle était comme moi, elle y voyait dans le nom de Marmoule, Illa Marmorea, la carrière de marbre. Mais on pourrait peut-être y voir un lieu de Mercure, Illa Mercuria, le Loug Belos Gaulois. Mercure qui, par exemple, emprunte de son influence le château de Mercues, château des évêques, avec son orientation bien particulière, puisque à Mercues, la chambre de l'évêque de Cahors est orientée, comme à Versailles, la chambre d'apparat du roi, exactement vers le point où le soleil se lève le matin du solstice d'été. On aurait donc là un lien entre Saint-Michel, 29 septembre, vainqueur du mal, mais en un lieu qui est un lieu axial du monde, un lieu d'un arbre axial, sacral, pivot du monde, avec la date du solstice d'été, qui est une date donc de sommet du temps calendaire, une date d'évolution maximale de l'année, et avec le personnage de Saint-Michel, successeur de Loug. Ce serait là peut-être l'explication même du passage du culte de Loug Belos, Mercure latin, à la dévotion à Saint-Michel. Alors, ce dieu gaulois, il a quelque chose d'assez curieux, c'est qu'il est à la fois un dieu jeune et beau, imberbe, bouclé, blond roux, solaire, apollinien, et en même temps, il est un dieu barbu, un homme mûr, qui est marqué par la puissance et la force dans sa pleine expression. Il est dans la force d'âge, comme l'on dit en français local. Le même Dieu est la source de deux figurations, en jeune et en vieux, en fils et en père, le père du jeune. Or, il se trouve qu'à Montcuq, dans l'église Saint-Hilaire, dans la chapelle des Narses, la chapelle funéraire des Narses, qui est bâtie sur la crypte funéraire des Narses, sur laquelle est bâti tout le transept de Saint-Hilaire, dans cette chapelle dite Saint-Louis, faite au 25 août, ou de Notre-Dame des Sept Douleurs, faite le 15 septembre, c'est ce qu'indique le vitrail central. Les chapiteaux de l'arc d'entrée, qui regardent vers le sud, vers le vitrail de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est un vitrail moderne. Il y a là deux visages d'hommes, qui regardent vers le sud, vers Midi, roi des étés, et ces deux chapiteaux, ces deux visages d'hommes, sont, si vous voulez, situés sur une ligne qui correspond à l'axe de lever du soleil au 1er août, qui est une des grandes fêtes dans le calendrier gaulois du dieu gaulois Lugbelos. C'est la Lugnasa, de l'union du ciel et de la terre, dans un calendrier gaulois figé selon les dates du calendrier solaire latin. Et cette lumière du 1er août anime un autre chapiteau où on voit apparaître à ce moment-là le dieu gaulois Kernounos aux cornes de cerf tenant le serpent à cornes de bélier. C'est donc là, ça nous donne bien le nom, une date, la date du mois d'août, le mois d'Elembiwos, le mois de la chasse aux cerfs. Mais, donc on a un nœud qui se crée, si vous voulez, entre deux dates et un personnage, Lugbelos, à la fois jeune et vieux, à la fois fils et père, à la fois jeune, imberbe, bouclé et barbu, et homme mûr. Alors, le chapiteau côté est nous montre un visage d'homme imberbe, jeune, aux cheveux bouclés longs. C'est tout simplement Apollon. C'est Bélénos. C'est l'Apollon gaulois, dont la fête se situe bon, fin avril, début mai, et qui règne sur la saison qui va de la fin avril jusqu'au début août. Le chapiteau ouest nous montre un homme barbu, aux cheveux longs. C'est Lug adulte, si vous voulez. C'est le père. C'est la figure de l'empereur à la barbe fleurie. Il est Lug, père de Bélénos, père de l'Apollon gaulois. Sa fête est au 1er août, dans le calendrier gaulois romanisé. Or, ces deux visages, d'un homme jeune côté est, d'un homme adulte côté ouest, présentent une particularité. C'est que si vous les regardez de profil, ces visages d'hommes deviennent des têtes de lion. Donc des têtes du lion solaire, signe astrologique du mois d'août, qui n'était pas, dans le calendrier gaulois, mois en rapport avec le lion, mais avec le cerf. C'est le mois de la chasse aux cerfs. Et en plus de ça, bon, le calendrier gaulois était un calendrier lunaire à date mobile, décalé. En plus de ça, il commençait à la fin du premier quartier d'une lunaison en cours pour aller jusqu'à la fin du premier quartier de la lunaison suivante. Donc c'est tout à fait différent. Mais il y a une chose intéressante, c'est que les saisons celtiques sont des saisons qui sont centrées sur les solstices et sur les équinoxes. C'est-à-dire que les solstices et les équinoxes sont à mi-chemin entre le début et la fin de chaque saison. La Saint-Michel d'automne, 29 septembre, est au milieu de la saison gauloise de l'automne, qui va de la fin juillet, début août, à la fin octobre, début novembre. Donc la Saint-Michel médiévale, qui marque l'équinoxe liturgique d'automne, marque l'entrée dans la saison sombre, la saison qui va durer jusqu'à notre approximativement fin avril, début mai, mais c'est aussi l'entrée dans la saison des vendanges. Et il faut se référer pour cela à la charte des coutumes de Montcuq de 1467, qui nous montre qu'on commençait de mettre en cave, de mettre en fût le vin nouveau pour la Saint-Michel le 29 septembre et que cette période des vendanges et de l'engrangement, si on peut dire, du vin durait jusqu'à la Saint-Martin, qui est une autre date clé dans le calendrier gaulois puisque c'est encore de nos jours la date où dans le calendrier liturgique de l'Église catholique en France, on change d'année liturgique. Or, les vendanges sont centrés sur quelle date? Le 9 ou le 10 octobre, Saint-Denis. Saint-Denis de Paris, qui, par sa mythologie, reprend beaucoup de motifs et de termes de la mythologie du dieu grec Dionysos. Il suffit de savoir que le Saint-Denis de Paris est assisté de deux compagnons, Rusticus et Eleuther, qui reprennent les épithètes qui étaient celles du Dionysos grec à Athènes, Rusticus en grec Georgios, le paysan, Eleutheros, le libérateur sauveur. C'est Anne Lombard-Jourdan, fervente catholique, qui dans ses œuvres « Montjoie et Saint-Denis, la fleur de lys et l'oriflamme » et sur Kernounos, gaulois comme divinité protectrice de la Gaule ancienne et prédécesseur de Saint-Denis de Paris, Anne Lombard-Jourdan a très bien montré que la céphalophorie, le fait que Saint-Denis de Paris décapité, porte sa tête sur une certaine distance, d'abord jusqu'à Saint-Jacques-de-l'Estrée, puis de là jusqu'à Saint-Denis, reprend au fond un vieux motif mythique bien connu dans la mythologie celtique, qui est celle du dieu souverain, qui porte le nom de Bran dans les îles britanniques, Brennos ou Brennus en Gaule, c'est-à-dire le chef de guerre décapité, et qui, une fois décapité, devient le protecteur du territoire celtique, en l'espèce de la Gaule, devenue romaine, puis, sous le nom de Saint-Denis de Paris, protecteur du royaume de France, qui est le champ des lys d'or sur fond d'azur céleste. Nous allons, après une petite intermède musicale, achever la question. Pour en revenir à notre fameux Saint-Michel-Archange, Jacques de Voragine, il fait de Saint-Michel l'archange des victoires. En gaulois, on dirait que Saint-Michel est Segedios, de Segos, la victoire, la force, la puissance. En hébreu, Saint-Michel, Michael, c'est celui qui est comme Dieu, avec un point d'interrogation, c'est un interrogatif. Les fêtes de Saint-Michel, au 8 mai, au mont Gargan d'Italie, le Monte Gargano, au 29 septembre, dans la baie d'Avranches, sont des victoires sur le mal, sur les anges déchus qui sont devenus des démons. Le démon en grec, c'est le maître d'une chose. C'est la puissance inconnue et inconnaissable et indéfinissable qui est la maîtresse d'une chose de la nature, d'une source, d'un arbre, d'un rocher. Je vous disais que Vilseic fut un lieu dit Biloseixo, c'est-à-dire Bilo, arbre solitaire et sacré, Segedios de la victoire. Or, Vilseic se trouvait à la cinquième borne milière après Cahors, vers Agen, par ce que j'appelle la Via Dioclétiane, c'est-à-dire la voie romaine de Cahors à Agen, tracée sous l'empereur romain Dioclétien. C'est devenu le Camis Caursenc, et c'est devenu, à partir de Boulogne en allant vers Agen, l'Estrado Clermontano, parce qu'elle aboutit à Clermont-dessous, Clermont-dessous. Or, il faut savoir que Clermontano n'est pas sans m'évoquer bien des choses. Parce que l'occitan clar vient du latin clarus, qui a pour équivalent gaulois leuketios, éblouissant de blanche lumière solaire. Les Clermont, en pays d'Oc, sont toujours des hauteurs de lumière, des hauteurs claires, si vous voulez. Clarus, c'est en latin une épithète du dieu gaulois Lugos Belos, le maître des hauteurs célestes. Les Clermont occitans sont parfois des monts d'une divinité gauloise qui est un aspect secondaire de Lug, qui est Mars, le dieu de la guerre, si on peut dire, le dieu de la puissance, Segedios, le dieu de la Segos, Mars Leuketios. Or, ce nom de Mars Leuketios, il a donné un dérivé, Leukotiatos, qui est aux origines même du nom de Luzesh. Et Leukotiatos est une autre épithète du Mars gaulois, du Mars éblouissant de lumière. Ce Mars Leuketios, Leukotiatos, qui a donné le nom de Luzesh, était le maître du Pech qui domine l'Impernal et Luzesh. pêche où l'on a retrouvé un temple gaulois à plan carré et couloir de circumambulation autour de la chambre centrale, celle-là. Loug, assimilé par Jules César à Mercure, était aussi le maître du Dunum Dumias, le mont de Loug Dumias, le puits de Dôme. Le puits de Dôme qui a donné le nom de Clarus Mons dans l'Antiquité tardive, à l'ancienne Augusto Nemeton, temple d'Auguste, romanisation de Lougou Nemosos, temple de Loug. Or, qu'est-ce que c'est que cette ancienne ville qui était centrée sur un temple d'Auguste qui succédait à un temple de Loug? C'est devenu Clermont d'Aubernio, c'est devenu Clermont-Ferrand. Et il se trouve que deux villes secs, comme de Granuejouls, l'ancienne Granoialum, clairière sacrée de Belenos Granos, de Belenos Soleil, de Belenos Apollon, fils de Loug Belos, de Granuejouls comme de Villesèque, on voit à la fois au sud les Pyrénées et au nord le Puy de Dôme, où se trouvait un temple de Loug Belos avec une statue du dieu qui était haute d'environ, semble-t-il, 20 ou 30 mètres. On la voyait donc de loin. En Pays de Montcuq, on retrouvera le même motif dans la toponymie, à Saint-Donès, au pêche de Belliki, qui est un pêche de Bellicunos, c'est-à-dire du chien, ou c'est-à-dire du loup, au fond, de Belosloug, qui est un lieu où les notaires de Montcuq, encore au XVIe siècle, appelaient le soleil levant et le soleil couchant, le loup beau se levant, le loup beau se couchant. Le loup beau, c'était le loup de Belle. Il disait loup belle, coulc, loup belle, leban, c'est-à-dire le loup de Belos, le loup de Loug, si vous voulez, le chien de Loug, qui est le soleil. Alors à Granuejouls, Belenos Grannos, l'Apollon gaulois, est toujours présent dans les vestiges gallo-romains de Bellefond, la source de Belenos, au fond, parce que c'est ce que ça veut dire, c'est la source de, ou de Belos-Loug peut-être. Et la christianisation des lieux a associé, tardivement, alors que le culte avait disparu, le lieu de Granuejouls à Notre-Dame en son Assomption. Or qu'est-ce que c'est? C'est la femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles de l'Apocalypse de Saint-Jean. De l'église de Granuejouls, on domine à la fois Bellefond, l'ancien temple de Belenos, du Belenos gaulois, au sud, et au nord, on a une vue qui s'étend jusqu'au Puy de Dôme et au sud jusqu'aux Pyrénées. À Saint-Pantaléon, qui est sous le vocable d'un saint crucifié à un olivier, un saint qui donne toutes les choses bonnes, qui est le donneur de tous les bienfaits, il est donneur d'huile et de lait, avec toute la symbolique de l'huile et du lait dans l'hébreu ancien. Un lieu dit Albernio est interprété par les gens du lieu comme étant dû à ce qu'un prêtre, curé de Saint-Pantaléon, avait été instruit et ordonné à Clermont-Ferrand par l'évêque d'Auvergne. Or, cela ne fait que reprendre les vieilles relations antiques entre les Cadourques du Quercy gallo-romain et du Quercy gaulois indépendant et les Arvernes, entre les ancêtres de Vercingétorix, roi des Arvernes, et les ancêtres de Lucterius, le fameux Lucterius ou Luctarius, qui était le dernier chef de l'indépendance gauloise en pays de Quercy, en pays des Cadourques. On est donc dans une situation qui se perpétuera pendant tous les siècles de l'Antiquité jusqu'à l'Antiquité tardive, jusqu'à l'épiscopat de Saint Didier de Cahors au 7e siècle. On est dans un pays où l'archange blanc de lumière, blanc de la blancheur éclatante du sacré, domine les paysages. On retrouvera ces motifs de lumière éblouissante et de sacré céleste dans le blason des barons de Luzèche. Blason qui associe le croissant lunaire d'argent sur champ d'azur, sur champ bleu, et le griffon solaire d'or sur champ d'azur. On retrouve dans le blason des barons de Luzèche, qui vont hériter de Saint-Aignan de Rouzet, du reste, par mariage avec Finamande de Rouzet, on retrouve là, si vous voulez, à travers les émaux, les couleurs, les meubles, les motifs de leur blason, on retrouve des aspects qui caractérisent Saint-Michel comme archange de lumière, vainqueur du mal. À Cahors, qui est une ville de pont et une ville de pontife, près de la source céleste, d'Iwona, des sangliers druides de combat, les sangliers druides de combat, c'est les Caturchi. Au passage, sur le Lot, un ancien gué devenu Punt de Balandre. Dans Balandre, on peut voir l'Ai Balandros, les barques à fond plat. On peut voir Beli Andarta, la victoire de Belosloug. On est au pied du pêche de Roquebilière. Roquebilière, c'est Rupis Beliaria. C'est la roche de Belosloug, c'est la hauteur de Belosloug. Ou alors ça peut être aussi le mont du Bilos, l'arbre axial du monde. Eh bien, en cet endroit, au débouché occidental du pont Valandré, Punt de Valandre, se trouvait, on est là au pied du pêche de Roquebilière, donc en un site de bas-fond, mais un site de passage sur le Lot, et qui a été probablement longtemps un site de sacrifices humains par noyade. C'est la vie de Saint-Didier de Cahors qui me le fait dire. On avait là, au débouché, après le pont Valandré, bâti au XIVe siècle seulement, une chapelle double dédiée à Saint-Michel-Archange et à Saint-Blaise. Alors Saint-Michel-Archange avait une autre chapelle qui protégeait la porte nord de la cité, la porte Saint-Michel, sur le cimetière actuel. Porte qui était en situation exactement opposée à la porte Saint-Laurent, au sud de Cahors. Saint-Laurent le 10 août, Saint-Michel le 29 septembre. Ou le 8 mai, tout dépend, là il faudrait se faire des recherches plus approfondies. Donc au pont Valandré, Saint-Michel était associé à Saint-Blaise. Or Saint-Blaise, c'est pas n'importe qui. Saint-Blaise, c'est le saint protecteur de la gorge. En occitan, c'est la Garganto. Même radical que Gargan, du mont Gargan en Italie. Que Gargantua. Que le Gargan, qui est l'organisateur du paysage. Celui qui est à l'origine des mégalithes, des dolmens et des menhirs, que l'on retrouve au Mont Saint-Michel de la baie d'Avranches dans la figure du paysan qui soulève des menhirs à la seule force de ses bras. Saint-Blaise, il est aussi le maître donc des mégalithes, des troupeaux de bestiaux. Saint-Blaise est le patron protecteur des bestiaux à cornes, comme les bœufs par exemple, mais aussi comme les animaux sauvages à cornes, tels que par exemple les cerfs. Il est le patron protecteur des taureaux, des chèvres, des moutons, mais aussi des porcs. Il est le patron protecteur des fauves et carnassiers, et en même temps de leurs proies, des animaux d'élevage et herbivores, et des animaux aussi bien domestiques que sauvages, carnassiers comme herbivores. Pour s'en rendre compte, il suffit d'entrer dans l'église Saint-Privat de Montcuq, et dans le bas-côté droit, quand vous entrez, devant l'autel, vous avez un tableau qui représente les motifs clés de la vie de Saint-Blaise, tel que repris dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Dans un autre endroit, pas loin de Montcuq, entre Montcuq et la vallée du Lot, à Bélaille, qui domine la vallée du Lot. Bélaille est une ancienne hauteur sacrée de Bélos-Loug. L'évêque, depuis 1230, est le seigneur des terres au sud du Lot et en aval de Cahors, entre l'Olt et la Séoune. La Séoune marque la limite sud des terres de l'évêque de Cahors. Or, Bélaille passait pour un lieu maître du tonnerre et des éclairs, comme Mont-Lauzun, un pays de Montcuq, comme le Mont Gargan en Italie, comme le Mont Saint-Michel. C'est donc un mont sacré de Loug, mais Bélaille sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste, comme Mont-Lauzun par exemple, qui est aussi sous le patronage de Saint-Pierre, comme l'est également Rouillac. Alors cette intrusion de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Pierre en concurrence avec Saint-Michel, ou à la place de Saint-Michel, appellerait des développements. Mais elle nous montre que ce pays de Quercy est marqué par des lieux, des hauteurs, Cahors, Granuet-Jouls, Villesec, Saint-Pantaléon, Bélaille, Luzèche, Saint-Donès, qui en ferait une contrée qui, au temps de la Gaule indépendante, fut sous la dominance de dieux célestes et lumineux, guerriers et victorieux, dont Saint-Michel hérita les compétences. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc à la prochaine fois, nous parlerons d'autre chose. Au revoir et tenez-vous bien.
As we draw near to the year's end, now is the time of Maybole, autumn is the time to descend. A woman waits patiently for us at the threshold of the labyrinth within. She offers her hand that we may understand the treasures that await at journey's end. Trusted of friends, she carries the
light of spiritual insight and leads us to our wisdom once again. Go of what obscures our soul and rediscover our true being in the end. Oh, now is the time of the harvest as we draw near to the year's end. Now is the time of May born. Autumn is the time to descend. Threshold of the labyrinth within. She offers a hand that we may understand the treasures that await at journey's end. Great Mother has given of her body. We give thanks for her fruit and her grain. We then clear the field so that next harvest yield be full and abundant again. A woman leads us through the darkness, our most ancient and trusted of friends. Carries the light of spiritual insight and leads us to our wisdom once again. And as we journey through the darkness and as we continue to descend, learn to let go of what obscures our soul and rediscover our true being in the end. Draw near to the year's end. Now